Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. L'actualité de l'Église a été marquée dimanche 17 novembre, notamment par la célébration de l'Eucharistie présidée par le pape pour marquer la 8e édition de la Journée mondiale des pauvres, suivie de l'Angélus. Le Saint-Père a lancé un appel au gouvernement et aux organisations internationales. Il a également invité l'Église à ressentir la même compassion du Seigneur envers les vulnérables et demander aux chrétiens de devenir signe de la présence du Seigneur proche de la souffrance des nécessiteux pour soulager leurs blessures et changer leur destin. Nous parlerons également de la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concernera la Tanzanie, le Sénégal et le Soudan. La deuxième partie de cette émission est consacrée au document du magistère de l'Église sur la synodalité. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec les activités du pape.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
L'espérance chrétienne a besoin de chrétiens qui ne détournent pas le regard et qui ressentent la même compassion que le Seigneur envers les pauvres. Le pape l'a affirmé dans son homélie lors de la messe qu'il a présidée dimanche 17 novembre en la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la 8e édition de la Journée mondiale pour les pauvres. François a invité les gouvernants et les organisations internationales à ne pas oublier les pauvres et avoir la compassion pour eux. Myriam Sandouno.
In realtà si diventa chiesa di Gesù nella misura in cui serviamo i poveri.
On devient Église de Jésus dans la mesure où nous servons les pauvres, car ce n'est qu'ainsi que l'Église devient elle-même une maison ouverte à tous, lieu de compassion de Dieu pour la vie, disait le cardinal Martini. Reprenant ses propos, le pape a expliqué que de notre foi au Christ qui s'est fait pauvre, découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société. François a insisté sur la compassion que l'on doit avoir envers les pauvres. Il ne s'agit pas de jeter une pièce dans la main de celui qui est dans le besoin, mais de se faire plus proche par un toucher, le regardant dans les yeux avec un sourire. S'adressant également à l'Église, au gouvernement et aux organisations internationales, il a invité à porter un regard sur les pauvres.
Je le dis à la Chiesa, je le dis aux gouvernements des États, je le dis aux organisations internationales, per favore.
Il revient aux chrétiens en communion avec l'Esprit Saint de semer l'espérance, la justice et la solidarité dans un monde marqué par les horreurs de la guerre et même dans la souffrance, a dit François. La présence de l'amour de Dieu qui se fait proche ne nous abandonne pas. Il agit pour notre salut.
La presenza dell'amore di Dio agisce per la nostra salvezza.
Après la prière mariale de l'Angélus, le pape a rappelé à nouveau la 8e journée mondiale des pauvres sur le thème « La prière des pauvres s'élève vers Dieu » et a remercié ceux des diocèses et des paroisses qui ont promu des initiatives de solidarité avec les plus défavorisés. Il a demandé de s'engager à prévenir les accidents à l'occasion de la Journée mondiale des victimes de la route. Il s'est par la suite rendu à la salle Paul VI pour déjeuner avec 1300 pauvres. À présent, la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique avec Stanislas Kambashi.
Ouvrons cette rétrospective par le Cameroun. Le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales, Mgr Paul Richard Gallagher, séjourne dans ce pays depuis le 14 novembre pour célébrer le 10e anniversaire de la signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et ce pays d'Afrique centrale. Sa visite de 4 jours doit renforcer l'engagement réciproque des deux États en faveur des valeurs communes telles que la paix, le respect mutuel et la promotion de la dignité humaine. Pour les nonces apostoliques au Cameroun et en Guinée équatoriale, Mgr José Avelino Bettencourt, cette visite est riche en échanges prometteurs pour les deux États.
C'est une visite très, très, très haut niveau et ça montre l'importance que le pape François, le Saint-Siège, l'Église donne à cet accord cadre et au Cameroun, bien entendu. Et cet accord, ça va nous donner l'occasion de célébrer tout ce qu'on a fait pour mieux servir.
la 137e session ordinaire et la 3e et dernière de l'année 2024 de la Conférence des évêques du Togo s'est tenue de lundi 11 à vendredi 15 novembre dans les locaux de l'ordinariat Virgo Potens du diocèse d'Aneho. Cette session a été principalement marquée par une séance de travail le premier jour entre les évêques et les membres de la Conférence des supérieurs majeurs du Togo, Consumato, séance qui a abouti à la validation par les deux conférences de la charte régissant leur collaboration à l'édification de l'Église communion au Togo. Au cours de ces assises, les évêques du Togo ont reçu également en audience une délégation des œuvres pontificales missionnaires de Slovaquie pour un projet de collaboration et de soutien dans la formation des futurs prêtres. Il y a eu d'autres moments importants comme l'écho du synode sur la synodalité donné par Mgr Dominique Guigbil, délégué à ce synode. Au Bénin également, les évêques se sont réunis à Lokossa du 10 au 13 novembre pour leur première session plénière de l'année pastorale 2024-2025. Au cours de ces assises, la conférence épiscopale du Bénin a abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la question de la sauvegarde de notre maison commune et la situation sociale et politique dans le pays. En République démocratique du Congo, un séminaire pour les universités catholiques d'Afrique et Madagascar sur l'évaluation et la promotion de la qualité dans leurs institutions s'est tenu à Kinshasa du 12 au 13 novembre. Venus de toutes les régions d'Afrique, lusophones, anglophones et francophones, les recteurs d'universités et doyens des facultés ecclésiastiques ont réfléchi pendant 2 jours sur la mise en réseau et la recherche des bons modèles de développement, gage de la qualité et de la distinctivité des universités catholiques. Notre correspondant Jean-Baptiste Malengue nous en a parlé.
Ils sont venus de toutes les régions d'Afrique. Ils ont partagé leurs expériences sur l'évaluation et la promotion de la qualité dans leurs institutions. Dans son discours d'ouverture, le président du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo, Mgr Donatien Bafoudine Sony, évêque d'Inongo, a souligné le besoin de marquer distinctement l'éducation catholique en Afrique, en insistant notamment sur la gratuité avec laquelle les hommes et les femmes se dévouent au service de l'humanité.
Au Tchad a eu lieu le pèlerinage des fidèles du diocèse de Pala, placé sous le thème « Pèlerinage, unité, paix et joie ». Ce pèlerinage a été bouclé par une messe présidée par l'ordinaire du lieu, Mgr Dominique Tinouji, qui a expliqué l'essence du pèlerinage.
Le pèlerinage est un voyage individuel ou collectif qu'un fidèle fait à un lieu saint pour des motifs religieux et dans un esprit de dévotion. Il s'agit d'une marche de foi. Il s'agit d'un voyage de foi. Pour nous chrétiens, le pèlerinage a ses racines dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une invitation permanente à entreprendre un pèlerinage. Ceci avec des modèles, avec des exemples, avec des lieux précis.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduit en Tanzanie où les équipes de secours tentaient dimanche d'extraire des personnes piégées sous les décombres d'un immeuble qui s'est effondré samedi dans la capitale économique tanzanienne Dar es Salaam, faisant au moins 5 morts. Le commissaire régional de Dar es Salaam, Albert Chalamila, a déclaré dimanche que des personnes étaient encore piégées dans le sous-sol de l'immeuble en ruine. Outre les 5 morts, l'accident a fait des dizaines de blessés. Au moins 70 personnes ont été secourues. Le bâtiment situé à Kariakou, le marché le plus fréquenté de ce pays, s'est écroulé pendant que des gens y faisaient leurs courses. Les Sénégalais se sont rendus aux urnes dimanche pour élire leurs députés. Environ 7,3 millions d'électeurs sont appelés à élire 165 députés qui siégeront pour 5 ans. Ils décideront de donner ou non aux gouvernants les moyens de tenir leurs promesses, à savoir améliorer la vie d'une population dont une grande partie se bat au quotidien pour joindre les deux bouts, partager avec elle les revenus des ressources naturelles comme les hydrocarbures et la pêche, combattre la corruption, transformer l'État et sa justice. Le gouvernement britannique a annoncé dimanche une nouvelle aide humanitaire de 113 millions de livres sterling, soit 136 millions d'euros, destinée à la population du Soudan ravagée par la guerre et aux réfugiés dans les pays voisins. Cette contribution, qui représente un doublement de l'aide promise au Soudan et à la région cette année, va apporter une assistance à plus de 600 000 personnes au Soudan et 700 000 personnes qui ont fui le conflit et se trouvent dans les pays voisins comme le Tchad et le Soudan du Sud, indique le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué. Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, qui se rend lundi au Conseil de sécurité de l'ONU, a décidé de demander aux forces armées soudanaises de maintenir indéfiniment ouvert le point de passage frontalier d'Adre entre le Tchad et le Darfour et appelé à la levée des restrictions qui ont limité le volume de l'aide passant par ce poste. Le document du magistère est présenté par le père jésuite Martin Bahati. Il continue avec la lecture du rapport de synthèse de la première session de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la synodalité.
Mes chers frères et sœurs, nous continuons à lire le rapport de synthèse de la première session de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques tenue à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Nous lisons la deuxième partie du rapport intitulée « Tous disciples, tous missionnaires ». Aujourd'hui, nous parcourons les quatre propositions du point appelé « L'évêque dans la communion ecclésiale ». Selon ce rapport, il convient de mettre en œuvre des structures et des processus sous des formes juridiques à préciser pour vérifier régulièrement la mission de l'évêque en ce qui concerne le style de son autorité, l'administration économique des biens du diocèse, le fonctionnement des organismes de participation et la protection contre toute forme d'abus. La culture de rendre compte fait partie intégrante d'une église synodale qui promeut la co-responsabilité et peut prémunir d'éventuels abus, demandent les participants au synode. En outre, les pères synodaux demandent de rendre obligatoires les conseils épiscopaux et les conseils pastoraux diocésains ou éparchiques, et de rendre plus efficaces également au niveau du droit les organismes diocésains de co-responsabilité. L'Assemblée appelle à une révision des critères de sélection des candidats à l'épiscopat, révèle le rapport de synthèse. La même Assemblée demande également de développer la consultation du peuple de Dieu en écoutant un plus grand nombre de laïcs, hommes et femmes, de personnes consacrées, en veillant à se prémunir de toute pression inopportune. Enfin, de nombreux évêques expriment le besoin de repenser le fonctionnement et de renforcer la structure de métropoles, provinces ecclésiastiques et de régions, afin qu'elles soient l'expression concrète de la collégialité sur un territoire et dans des domaines où les évêques peuvent faire l'expérience de la fraternité, du soutien mutuel, de la transparence et d'une consultation plus développée.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.
Come on,